Depuis que l'ère des tuyaux a envahi nos vies, les médias disponibles se sont multipliés. Bonne nouvelle pour les consommateurs de contenu, bonne nouvelle, je pense. Mais pour celles et ceux qui ont pour enjeu de créer les meilleurs contenus pour leur audience, c'est probablement beaucoup plus complexe. Entre la tyrannie des algos et du search, la pression du delivery dans le respect de cadres budgétaires toujours plus contraints, la nécessité d'émerger, l'impératif de toujours coller aux besoins de son audience, cela devient parfois un véritable casse-tête pour les directions de la communication ou les rédactions dans les médias, d'autant plus que la concurrence est féroce, l'audience volage et volatile. Pour corser le tout, les possibles en matière de contenu sont devenus multiples. Articles, vidéos, podcasts, événements live, infographies et autres data storytelling sont désormais au cœur de toutes les convoitises, au cœur de toutes les recherches pour trouver la nouvelle martingale. Et si les ingrédients sont désormais facilement disponibles pour tous pour pas beaucoup d'argent, la recette magique demande par contre beaucoup de métiers et encore plus de métiers peut-être. Pour échanger sur les stratégies de contenu et les grands enjeux, l'invitée du podcast est Carolina Thomaz, la rédactrice en chef des tendances chez l'ADN. Bonjour Carolina.
Bonjour PPC.
Première question pour toi Carolina, qu'est-ce qui change dans le game des contenus et de l'édito?
Qu'est-ce qui change? Beaucoup de choses changent. Tu l'as dit toi-même dans ton introduction, il y a beaucoup d'enjeux en matière de contenu. Que ce soit aussi bien dans les médias, moi je travaille dans un média que dans les directions de la communication, par exemple, qui pratiquent aussi beaucoup les stratégies de contenu. Moi je vois plusieurs enjeux, ils sont tous interdépendants, mais le premier c'est avant tout un enjeu éditorial, ça peut sembler évident comme ça, mais dans une ère comme la nôtre, qui est quand même l'ère de l'info obésité, pour faire court, il y a une nécessité vitale à savoir développer une voix qui soit robuste et fiable, et surtout une voix qui soit singulière, une voix qui nous ressemble, qui ressemble à l'entreprise pour laquelle on travaille. Je vois aussi forcément des enjeux autour des business models. Alors ça, c'est pareil, c'est très variable en fonction des entreprises et des périmètres. Des enjeux autour de la relation avec les plateformes, la façon dont justement on peut les utiliser ou pas pour émerger. Il y a des enjeux RH, bien sûr, parce que trouver des talents, c'est compliqué. Tu le disais aussi, je crois, en introduction, des journalistes qui quittent de plus en plus le métier. Je crois que j'ai vu une stat passer, il y a 10% de cartes de presse en moins. En 10 ans. Donc voilà, beaucoup d'enjeux.
Et qu'est-ce qui ne change pas dans le game des contenus? Est-ce qu'il y a des invariants, des trucs qui ne doivent pas bouger?
Alors pour moi, effectivement, il y a un invariant qui est la qualité du contenu. C'est pareil, hein, ça peut sembler évident, mais justement, je pense que quand on est dans une zone de mutation comme celle qu'on vit en ce moment, il y a vraiment un enjeu à se centrer sur la qualité de ce qu'on propose aux gens qui nous lisent, parce que le contrat de confiance, pour reprendre une expression célèbre d'un grand distributeur, le contrat de confiance entre les lecteurs, il est vraiment essentiel et c'est lui qui fait toute la différence sur la longueur et sur le lien que tu crées avec lui. Je trouve qu'accessoirement aussi, c'est une bonne façon de s'abstraire du brouhaha ambiant. Moi, je suis une grande disciple de Marc Aurèle, hein, et j'ai tendance à essayer justement de vraiment me concentrer sur les choses sur lesquelles j'ai du contrôle, comme par exemple les papiers que je produis, les revues que j'encadre, et les choses sur lesquelles j'ai moins de contrôle, comme, je ne sais pas, par exemple, des algorithmes au fonctionnement obscur. Et j'essaye d'avoir la sagesse de distinguer les deux choses pour évidemment me concentrer sur ce que je peux changer. Et donc forcément, ça va être sur la qualité du contenu. Pour moi, ça, c'est vraiment un invariant et c'est un pilier, quoi.
Tiens, on va creuser justement en parlant de qualité de contenu avec la question de Laura qui nous dit en ces temps de vanity metrics, comment on qualifie la qualité du contenu? Alors, comment on fait pour qualifier cette qualité?
Moi, je crois qu'une bonne façon, ça peut être effectivement de raisonner un peu en écosystème et en presque un biotope. Alors, il se trouve qu'en ce moment, je travaille pour un média qui s'appelle l'ADN. Ça aussi d'ailleurs, tiens, c'est un vrai sujet média et contenu. On diversifie pas mal, on a beaucoup de formats, on s'ancre vraiment dans des temporalités très différentes. C'est-à-dire qu'effectivement, on a notre site web, l'ADN Tendance et l'ADN Business, mais on a aussi nos revues papier trimestrielles. Et là, bah, justement, je suis en train de boucler notre hors-série annuelle qui s'appelle l'ADN des tendances, qui justement a vocation à creuser en profondeur 20 secteurs d'activité dans un ouvrage qui fait pratiquement 400 pages et qui pèse 4 kilos et qui a vocation à être un peu ces livres qu'on retrouve sur les tables basses et qu'on aime à feuilleter. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, par exemple, ça peut être une bonne façon de juger la qualité d'un contenu, parce que quand il est là pour durer dans le temps, quand il est là pour être imprimé sur un beau papier, on essaye de faire en sorte de donner de l'espace pour des interviews sur la longueur avec des penseurs, avec des intellectuels, avec des entrepreneurs, etc. Donc ça aussi, ça peut être une façon de se concentrer sur la qualité du contenu.
Donc, le beau bébé, 4 kilos, pas mal. Beau travail,
ouais,
à venir.
Beau bébé.
On suivra,
ouais,
le beau bébé. Question de Vincent. Moins de cartes de presse, mais de plus en plus de rédacteurs amateurs, dont certains sont, d'après lui, meilleurs, et d'autres peuvent être pires. Ça aussi, tu parlais des RH dans les enjeux. Ça donne, ouais, l'opportunité à des nouveaux talents d'émerger aussi, non?
Mais tout à fait. Et je trouve qu'effectivement, alors c'est pareil, hein, dans la vie n'est faite que de paradoxes. Quand je dis il y a de moins en moins de cartes de presse, en même temps, ce sont souvent des gens qui partent dans des directions com, donc ils sortent certainement d'une forme de vortex dans lequel le numérique peut avoir précipité certaines rédactions qui ne travaillent plus que dans un flux extrêmement tendu. Ce n'est pas à dire qu'on ne travaille pas dans des flux extrêmement tendus dans les directions de la communication, mais parfois, en tout cas, effectivement, il y a ce shift qui se fait. Mais effectivement, oui, ça peut être une bonne chose aussi de voir l'émergence de nouvelles figures qui s'emparent des questions de contenu, qui veulent prendre la parole, et c'est pour ça que c'est une époque absolument passionnante, parce que justement elle permet de voir émerger des talents divers, des formats divers. Après, il y a aussi un souci de précarisation du métier, et ça d'ailleurs, ça concerne aussi bien des gens qui ont des cartes de presse que des rédacteurs indépendants sans carte de presse.
Je rebondis sur la question d'Olivier. Il te dit, pour les créateurs de contenu écrit ou de podcast, quels sont les business models viables en 2021 pour un freelance, sachant qu'on a toujours un peu l'impression que finalement les freelances sont un peu payés au lance-pierre dans les médias ou pour rédiger des contenus. C'est quoi le business model?
Ce serait tellement formidable si je pouvais donner la martingale qui fonctionne à tous les coups. L'année dernière, on parlait beaucoup de la passion économie, où justement on voyait notamment aux États-Unis beaucoup de plumes et de journalistes partir de leurs médias pour monter leurs newsletters payantes, notamment via des plateformes comme Substack. Donc, il y avait cette espèce de ruée vers la newsletter payante. Après, c'est comme tout. C'est comme les blogs il y a 10 ou 15 ans. Le réveil, parfois, peut être un petit peu difficile parce qu'au bout d'un an, au bout de deux ans, on se rend compte aussi qu'il y a un enjeu à fidéliser son lecteur sur la longueur, qui va peut-être effectivement s'abonner quelques mois puis passer à autre chose. Tu le disais en introduction également, la concurrence est de plus en plus féroce, etc. Donc, d'une façon générale, on constate que quand même l'abonnement commence vraiment à rentrer dans les mœurs. Alors, justement, je le disais, un compte-rendu de médias en scène où un des intervenants du Monde disait que justement, typiquement des Netflix ou des Spotify nous avaient convertis à l'abonnement. Et effectivement, voilà, l'économie de l'abonnement est devenue une chose beaucoup plus courante. Maintenant, le budget des ménages n'est pas forcément extensible pour pouvoir accueillir tous les abonnements de la Terre. Et donc, ce sera toujours quand même une bataille autour des contenus pour pouvoir générer le maximum de lecteurs gratuits ou payants.
Tu penses qu'il y a une différence quand même entre l'univers anglo-saxon et l'univers français sur ces logiques d'abonnement? On a l'impression que les Américains ont dans leur modèle, en fait, c'est normal de payer pour accéder à un média. Et peut-être en France, bah non, ça devrait être gratuit. Il y a vraiment cette partie pris ou c'est vraiment une idée préconçue de ma part?
Je sais pas, moi j'ai beaucoup travaillé, j'ai travaillé pratiquement 15 ans dans le groupe TF1, pas forcément sur des questions de rédac, mais plus sur des questions d'innovation. Et je me souviens, il y a une dizaine d'années, quand on regardait Netflix de loin, il y avait quand même cette grande nouveauté par rapport au paysage américain, c'était que justement Netflix, contre de l'abonnement, ne proposait pas de publicité. Aux États-Unis, les contenus audiovisuels sont littéralement saucissonnés par la publicité, notamment à l'époque des pay TV, la grande époque des chaînes câblées. Donc là, du coup, c'était l'inverse avec Netflix. Ils ont appris ce que c'était que pouvoir regarder 30 minutes de télévision sans être interrompu par de la publicité.
C'est vrai qu'on a de la chance en France. Je rebondis sur justement peut-être aussi différences culturelles. Olivier nous dit Patreon ou autres sont-ils une solution viable pour les producteurs de contenu? On voit aux US des choses comme Patreon marchent plutôt très
Ouais,
bien. Ça arrive en France.
ouais.
Ça n'a pas l'air de décoller.
Bah, c'est un peu ce que je te disais aussi par rapport à Substack. Pour moi, c'est la même veine. Substack, Patreon. Je dirais que mon opinion sur le sujet n'est pas encore tout à fait sèche.
D'accord.
Effectivement, j'aurais quand même tendance pareil, à dire qu'en France, j'en vois pas des caisses. J'en vois quelques-uns passer, des Patreon comme Substack. Mais pareil, je trouve qu'il y a une vraie difficulté à faire. Perdurer ces modèles sur la longueur.
Bon, on va laisser sa chance au produit, comme dirait l'autre. Voilà.
Ouais.
Tiens, on parlait tout à l'heure justement des directions de la com, des médias. Question très intéressante de Laura qui nous dit: quel avis sur les médias qui vendent à présent des services aux entreprises? Tu en penses quoi, toi? C'est aussi une possibilité pour les médias de trouver de la
Ah bah moi
rentabilité?
j'en pense beaucoup de bien. D'ailleurs parce que pareil, l'ADN, l'entreprise pour laquelle je travaille actuellement, c'est aussi une de ces lignes de diversification. Pour moi, c'est indispensable de diversifier ces lignes de revenus à partir du moment où justement on fait les choses de façon très nette, très cloisonnée, avec des organisations qui s'y prêtent bien. Je m'explique. Par exemple, effectivement, à l'ADN, on a une activité qui s'appelle l'ADN Studio, et qui justement accompagne les entreprises pour développer des narrations autour de thèmes que nous pratiquons assez régulièrement, donc qui sont voilà, les tendances, l'accélération numérique, mais aussi la transition écologique. Donc forcément, déjà d'une part, on a des plumes qui connaissent ces sujets. D'autre part, on a aussi des réseaux. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'un écosystème ou d'un biotope, et que on peut aussi effectivement mettre ses compétences au service des entreprises. Mais après, effectivement, on fait en sorte d'aligner dès le départ nos buts respectifs, et de faire en sorte de travailler sur des choses qui soient éditorialement compatibles avec qui nous sommes. C'est très important, ça.
Comment tu vois, si on met un petit peu de perspective justement là-dessus, le futur c'est quoi? C'est que les directions de la communication et tous, je dirais, un média avec lequel ils travaillent, c'est-à-dire que c'est le média va remplacer les agences de communication, les agences de pub, parce que le média est très fort pour les stratégies de contenu. Tu vois ça comme une perspective ou tu vois autre chose?
Non, je pense pas qu'on en arrive à cet extrême-là. Je n'ai pas forcément de vision sur la perspective sur cette relation. Je pense qu'effectivement, les entreprises peuvent continuer à travailler avec des médias. Des médias qui peuvent d'ailleurs changer en fonction des sujets qu'ils ont à aborder. En tout cas, je sais qu'il y a une recherche de sens qui est tellement forte en ce moment, à tout point de vue, notamment dans le cas de la raison d'être des entreprises. Ils ont vraiment à cœur, ce que je constate, hein, avec les clients avec lesquels on travaille, à se positionner et à travailler avec des médias qui, justement, vont aller chercher de la réflexion et du sens par rapport à un monde qui change tellement vite et tellement profondément.
Chercher
on le
du
voit
sens,
avec les entreprises qui viennent travailler avec nous, c'est ce qu'elles viennent chercher chez nous. Et c'est ce qui fait notre valeur éditoriale et notre fibre éditoriale.
Donc, donner du sens, et ça répond, je pense, à la question que posait Vincent. Comment sortir du brouillard permanent encore plus lourd depuis la Covid ? Pensez, et probablement, et dis-nous ça, Carolina, c'est amener du sens, c'est ça ?
Oui, amener du sens. Enfin, je pense que il y a, pour les médias, de toute façon, il y a, et même pour les entreprises, à nouveau, avec l'exemple de la raison d'être, il y a vraiment un enjeu à se positionner de façon sociale et sociétale pour accompagner et faire partie même de la transformation qui nous attend et qui nous oblige. Donc les médias, c'est aussi ça, c'est justement faire sa part, apporter de l'information de qualité, j'y tiens, et qui ouvre les chakras sur les transformations qu'il nous reste à accomplir cette époque si passionnante et en même temps... peut être parfois source de certaines angoisses. Donc elle est passionnante. Je préfère terminer sur la passion.
Ouais, c'est bien la passion. Et d'ailleurs, c'est Delphine qui nous donne le mot de la fin. Amener du sens, ce qui fait votre ADN. Voilà.
C'est exactement, Delphine.
La bonne chose. Bravo,
le
Delphine.
Le sens de la punchline.
Le sens de la punchline qui va bien. Mille merci à toi, Carolina, d'avoir été présente dans cet épisode du podcast. Merci à vous tous qui avez été présents pendant le direct, pour vos commentaires, pour vos questions. C'est sympa, ça met l'ambiance terrible. Et puis, quant à toi qui as écouté cet épisode du podcast jusqu'ici, je te remercie. Merci d'avoir écouté jusque-là. Ça s'appelle la complétion, ça fait du bien à l'algorithme. Tu vois, ça, c'est plutôt pas mal. Et puis, si tu es sur Apple Podcast, n'hésite pas, tu mets 5 étoiles et un commentaire. Ah oui, le commentaire, il est très important. Les 5 étoiles, c'est du bonheur, mais le commentaire, c'est encore mieux. Mille merci. On se retrouve demain matin pour un prochain épisode et on va parler du bug bounty. Ouf, oulala. Tu sais, c'est quand les hackers se mettent au service de la sécurité des entreprises. Je serai accompagné du très talentueux Corben, le chef de l'Internet. Il sera avec nous et c'est un grand spécialiste du bug bounty. Il va tout nous expliquer. À très très vite. À ciao à tous. Et puis surtout, ne lâchez rien. Soyez heureux. À très vite. Bye.